vice-versa. Et vice-versa.
Et vice-versa, comme la double face du monde, comme les deux faces d'une médaille. Et vous, plutôt vice ou plutôt versa?
Et nous revoilà sur Radio Esperanza pour parler un petit peu vice-versa, parce que le système n'a pas qu'une seule face. Il y a bien sûr le modèle de consommation dominant, celui qu'on connaît tous, celui qui fait les affaires de Deleuze, d'Heineken et des autres. Et il y a aussi tout un monde d'alternatives pour consommer différemment. Consommer différemment, c'est un des credos de l'ONG Les Amis de la Terre. On va en parler avec Guillaume et Daniel qui nous ont rejoints. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux, avec vos collègues de l'association, sur le stand du Village des Possibles. Après 3 jours de festival, tout le monde commence à connaître. Bon, pour dire plus précisément, vous êtes juste sur la gauche quand on rentre.
Exactement.
Peut-être déjà en un mot, les Amis de la Terre, c'est, voilà, vous faites beaucoup la promotion d'un autre modèle de consommation. Plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ?
Les Amis de la Terre, c'est une association, une association d'éducation permanente. Et donc, elle travaille sur 3 grandes thématiques, c'est-à-dire la simplicité volontaire, la terre vivante et l'économie non violente. Donc, la simplicité volontaire, c'est vraiment pour un retour à un modèle de consommation, pour éviter tout ce qui est la surconsommation. Donc, un modèle beaucoup plus simple, avec moins de biens, plus de liens, prendre du temps pour vivre et donc vraiment éviter toute cette surconsommation. La deuxième grande thématique, donc, c'est l'économie non violente. Donc, c'est pour une économie qui n'est pas dans le capitalisme, pas dans la domination, qui est vraiment dans le respect de l'humain et pas dans une espèce de domination et qu'on est totalement submergé et contrôlé par une économie. Et après, la terre vivante, c'est vraiment avoir une terre, une agriculture beaucoup moins productiviste où on respecte les ressources naturelles, la terre est beaucoup plus en adéquation avec l'écosystème. Donc ça, c'est les 3 grandes thématiques sur lesquelles les Amis de la Terre travaillent.
Et donc tout ça, vous l'avez présenté au festivalier un petit peu, hein, sur le stand. Quel est le retour ? Parce que bon, on parle beaucoup d'essayer de consommer un petit peu moins, et puis des fois, quand on est dans un festival, même quand un festival fait attention, on sait que c'est le cas à Esperanza, on voit des fois une sorte de débauche de consommation, d'excès. Comment réagissent les festivaliers quand vous les interpellez sur ce point ?
Bon, la plupart du temps, je pense que les festivaliers sont très réceptifs, hein. Juste à Esperanza, on a affaire à un public déjà averti, faut dire ce qu'il y a. Donc en général, ce sont des thématiques soit qu'ils connaissent, soit qui les intéressent, vont les intéresser. Donc là, ils sont très réceptifs et en général, assez intéressés. Et justement, par cette vision aussi globale qu'essayent, hein, sans, en toute humilité, hein, qu'essayent les Amis de la Terre d'avoir, de ne pas se concentrer dans un problème sociétal, mais justement d'avoir cette vision générale qui est reprise dans les grandes thématiques. Là où c'est parfois plus compliqué, c'est lorsqu'on fait nos activités en dehors de ce festival. Si je peux me permettre de faire un lien justement avec Vanupier juste avant, c'est qu'une des actions qu'on fait, c'est de la sensibilisation à la surconsommation dans les métros à Bruxelles. Et là par contre là on a affaire à un public beaucoup plus varié et parfois moins réceptif, qui ne comprend pas toujours pourquoi et pourquoi on tient ce message, quels sont les problèmes, ou est-ce que réellement c'est le citoyen qui doit agir pour résoudre ce problème de surconsommation, ou est-ce que le problème de société n'est pas à résoudre à un autre niveau, que ce soit décideur ou autre. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Le but, bien entendu, est toujours la même chose, c'est de pousser à la réflexion et de pousser au débat. Donc on essaye toujours dans nos messages, que ce soit ici au festival ou dans nos activités durant l'année, de ne jamais arriver avec la solution ou bien un discours, voilà la réalité vraie, mais toujours de pousser plutôt à la réflexion, de créer du débat. Et c'est intéressant parce que justement, ça nous confronte aussi, nous, au discours qu'on veut transmettre.
Oui, l'action dans les métros, précisément, c'est qu'on prend les jours qui prônent la consommation, comme maintenant, il y en a le Black Friday qui est arrivé en Belgique, ou la Saint-Valentin, ou les soldes. Et donc, c'est ce jour-là qu'on va chanter dans les métros avec une guitare. Et à ce moment-là, on en profite pour aussi discuter avec les gens dans le métro, qui sont souvent assez enthousiastes, assez ouvert à la discussion, et on distribue des flyers pour expliquer vraiment la simplicité volontaire et comment on peut les alternatives à la surconsommation.
Donc on rappelle, hein, la simplicité volontaire, essayer de consommer moins, hein, se recentrer un peu sur des consommations essentielles, on peut dire ça
comme ça. C'est vraiment se centrer sur pas la surconsommation, vraiment consommer les biens essentiels, moins acheter des marques, pas succomber à toute la production, à la condition de la société qui nous prône d'acheter en surabondance, et vraiment se baser sur l'essentiel. Ouais.
Et le concept va plus loin que la consommation, hein. C'est aussi, la grande thématique c'est ralentir aussi, donc ralentir ça veut dire prendre plus de temps pour soi, ou pour ses proches, pour ce qui nous intéresse. Et donc là on touche à tout ce qui est par exemple le stress lié au travail, ou le stress lié à une société de plus en plus dans l'accélération, dans on veut faire plus tout le temps. Et donc c'est une remise en question de ok, qu'est-ce qui réellement moi me rend heureux, qu'est-ce que je veux faire, et est-ce que réellement, après le lien avec la consommation, c'est est-ce que réellement c'est la consommation qui satisfait mes envies et mes besoins.
Et quand vous menez ces actions dans les métros, moi je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vont vous dire mais moi je m'en fiche de tout ça, ce qui m'intéresse, moi ça m'intéresse de changer de téléphone tous les 6 mois pour avoir le dernier modèle, tout ça. Est-ce que vous, ou alors est-ce que vous abandonnez parce que vous vous dites non là c'est peine perdue?
Non, on n'abandonne pas. Je pense que le but c'est quand même toucher tous les publics, donc ce serait dommage d'abandonner si on va sensibiliser juste un public qui est déjà un peu acquis à la cause, ça n'a pas d'intérêt. On a essayé d'expliquer aussi les causes sur la crise environnementale, le fait que c'est pas uniquement les multinationales qui sont responsables. Évidemment, ils sont responsables de la crise environnementale, mais nous, en tant que citoyens, on a aussi un rôle. Si on achète leurs produits, évidemment, ils vont continuer. Et donc, la crise environnementale, elle arrive. Enfin, voilà, on peut difficilement encore mettre en cause cette crise environnementale. Et donc, la consommation est un facteur qu'il faudra prendre en compte. Et on leur montre aussi que c'est pas parce qu'on change de smartphone qu'on est nécessairement plus heureux. On peut très bien vivre avec un smartphone pendant plusieurs années. Et on leur montre aussi les bienfaits que peut avoir justement vivre plus simplement. Et oui, c'est ça.
Ce que tu disais, Guillaume, à l'instant, vivre mieux.
Voilà. Et donc c'est le lien avec les autres thématiques, hein, donc de environnemental. Donc c'est la biodiversité, le climat, etc. Les thèmes qu'on connaît, mais aussi sociétal, l'humain. Et donc là, on a abordé, hein, je sais plus si c'est avant qu'on l'a cité. D'où viennent les minéraux et dans quelles conditions ils sont produits, comment est payé l'agriculteur qui a produit le quinoa en Amérique du Sud. Bon, ben voilà, c'est ce genre de réflexion à avoir, et donc l'impact que notre consommation a sur la société.
Alors sur votre stand, donc dans le village des possibles, vous aviez aussi une petite animation, hein, avec les festivaliers, où vous essayiez avec eux de remettre en cause en fait les solutions proposées, c'est ça?
Voilà, donc c'est toujours dans l'idée de créer du débat et de discuter et d'ouvrir, donc et sans apporter un message définitif quoi, mais donc l'idée, oui, on voulait discuter quelques problèmes sociétaux qui existent dans la société, en Belgique principalement, et des réponses à ces problèmes ou des solutions à ces problèmes qui peuvent être apportées. Je prends un exemple, voilà, des problèmes de mobilité dans les villes. On aborde la mobilité douce avec les trottinettes et vélos électriques, par exemple. Et donc on demandait aux gens, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution ou pas, ou qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, on essayait de prendre, tiens, et voilà, en fonction du thème du festival, les privilèges, qu'est-ce qui se passerait si vous n'étiez plus vous, mais que vous étiez vous avec un handicap ou plus âgé ou une personne d'une autre couleur, etc., de peau, etc., racisée. Et là, c'est, voilà, de voir un peu, est-ce que la solution apportée a tenu compte de ce non privilège, je sais pas comment je veux dire.
Cette situation.
voilà. Et donc c'est remettre en question justement parfois des solutions qui sont apportées aussi par les mouvements écologistes. Hein. Et donc c'est toujours la même chose, quoi, débattre et se poser la question de ok, comment faire. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter la solution, bien entendu pas, mais peut-être qu'il faut trouver une solution complémentaire ou bien l'adapter. Enfin, voilà.
Prendre la solution, mais prévoir des alternatives.
Voilà, et essayer toujours de mettre des lunettes pour tenir compte de toutes les situations possibles.
Les vécus. Mmh.
Oui. Voir le monde un peu différemment. Mmh. Oui. Et dans les mois qui viennent, il y a pas mal d'actions qui sont prévues au niveau environnemental. Bon, il y a la marche pour le climat en Belgique, à Bruxelles, c'est, je ne sais plus, le 20 septembre, enfin, quelque chose comme ça,
ouais,
sur ce week-end-là. C'est des genres d'actions auxquelles vous prenez part, j'imagine. Mm-hmm. Ça se passe comment? Juste en manifestant, ou vous animez, ou il y a encore des interpellations?
Ça dépend. Les manifestations précédentes, on a juste été manifestés avec nos banderoles, juste de manière. On n'a pas fait d'animation particulière pour ces événements-là. Il y a d'autres événements qu'on rejoint, par exemple, ici, il y aura le Musée du Capitalisme à la Bourse cette année, où là, on fera une soirée d'animation qui n'est pas encore totalement définie, mais là, on fera une animation un soir, un jeudi.
Un lundi.
Une animation précise. À ce moment-là, on peut aussi rejoindre d'autres événements et d'autres associations, parce que c'est aussi intéressant de collaborer avec d'autres associations pour faire avancer nos projets et aussi rencontrer différents types de publics.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois l'impression, tu disais que vous ne menez pas d'action dans les manifestations, en même temps c'est vrai que ça serait prêcher des convaincus, et est-ce qu'il n'y a pas parfois l'impression aussi d'avoir du mal à porter le message plus loin que le niveau auquel il est déjà porté maintenant ?
Si, on rencontre déjà entre nous, on est essentiellement, par exemple dans la locale de Bruxelles, on pourrait le même type de public, on est essentiellement des gens qui ont fait des études, etc. Donc on a une volonté évidemment d'ouvrir, mais c'est toujours très compliqué d'ouvrir à un plus large public. Il y a un souhait évidemment au niveau des permanents, des amis de la Terre, d'ouvrir un plus large public. Après, les solutions pour ouvrir un plus large public, c'est de faire des partenariats, c'est-à-dire faire des partenariats avec des CPS, avec d'autres associations, pour vraiment aller avoir un public assez différent et assez pour pouvoir toucher un autre public que nos connaissances et juste nos connaissances qui sont souvent un public assez similaire.
Est-ce qu'on poserait une petite question à Kiki ?
J'ai une petite question à Kiki de derrière les fagots. Il reste du coup plus que 3 papiers, le premier ayant été pris par Vanupier. Mm-hmm. Faites le bon choix.
Il n'y a pas de bon choix.
Il n'y a pas de bon choix.
Il n'y a que des privilèges.
Plutôt City Trip en avion ou grand voyage en bateau ? La City Trip, je ne suis pas ultra fan. Après, j'avoue que j'ai pris l'avion récemment. je ne sais pas. Oui, c'est sûr que l'avion, c'est quelque chose qui pollue à mort. Et c'est sûr que parfois aussi, quitter nos privilèges, c'est compliqué aussi. Nos conforts aussi, on n'est pas des modèles. Et même si on agit pour l'environnement, c'est parfois un peu compliqué de se confronter à nos privilèges et à nous, à nos envies de voyage, etc. Donc oui, c'est sûr qu'on y réfléchit. Enfin, moi, là, je n'ai pas de voiture, etc. Mais on y réfléchit quand même. Mais parfois, oui, on succombe aussi à nos envies d'aller à l'étranger loin, etc. Donc ouais, mais c'est sûr que et après il y a aussi le problème aussi que tous ces transports en commun, que l'avion soit moins cher que le train, etc. C'est aussi tout un gros problème aussi parfois on est confronté.
Oui, maintenant c'est sûr que les amis de la Terre ne vont pas promouvoir les city trips en avion.
Heureusement.
Et les grands voyages en bateau.
Ça peut se faire. Après il faut pas se voiler la face, le bateau pollue également, hein, donc il faut pas oublier ça. Maintenant c'est sûr que un grand voyage on l'a tous fait et c'est génial. Ça ouvre l'esprit, donc c'est chouette. Mais il y a des manières de le faire.
Pour les city trips, moi je rappelle qu'il y a une petite alternative quand même.
Bien sûr.
Pour ne pas être toujours entre ne pas y aller ou prendre l'avion, il y a les trains de nuit.
Bien sûr.
Et alors il y a beaucoup de gens qui se battent maintenant pour les faire revenir. Malheureusement en Belgique, on est très mal desservi. La seule solution, c'est de passer par Paris et après on peut très facilement rejoindre le sud de la France et c'est génial. On part le soir après le travail, on part à 17h, on change de train à Paris. Le samedi matin, on est à destination, on arrive frais et reposé. On commence notre week-end, on n'a pas payé d'hôtel et on passe nos 2 jours à fond. On revient le lundi matin et on retourne au bureau. Je te vois rigoler, Kiki, mais tu devrais essayer vraiment.
Non, mais je souris pas pour ça. C'est parce que tu on dirait une agence de voyage. Et qu'en fait, je pense que si on m'avait posé la question, j'aurais peut-être pas répondu aussi justement. En disant, effectivement, il y a le côté où on a tous des luttes dans lesquelles on met notre énergie, mais qu'on n'est pas des modèles non plus, et qu'on a aussi nos envies, nos privilèges et des envies irrépressibles auxquelles on va succomber. Et je trouvais ça assez juste que tu as souligné là, et j'avais une question qui était un peu dans la lignée, mais qui est un peu de nouveau question de Chiki. Hein, c'est on entend souvent les gens qui essayent de faire des efforts, qui ont été sensibilisés, qui commencent à se rendre compte effectivement que oui, la trottinette électrique, c'est pas terrible parce que justement, elle a une batterie, que cette batterie, on a été dans des endroits pas terribles, dans le sud, chercher les composants dans les mines, qu'il y a le côté de la décence du travail, que c'est des enfants qui vont généralement faire ça. Puis cette personne, elle se retrouve avec tous ces propos, elle est venue à Esperanza, elle est venue à votre stand, et elle se retrouve à faire ses courses de la semaine. Et on lui a tellement donné d'informations qu'elle ne sait plus choisir entre le fair trade, l'éco et le bio. Et moi, je fais quoi là-dedans, dans ces trois concepts? Et là, j'ai envie de dire, c'était ma vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On choisit lequel des trois? Je demande ça aux amis de la Terre.
Encore une fois, les amis de la Terre ne veulent pas arriver avec la solution qui n'existe pas. Je pense que c'est à chacun en fonction de... On dit l'expression en âme et conscience, hein, donc si je peux la reprendre, à choisir ce qu'il veut. Maintenant, on essaye de critiquer les alternatives au modèle dominant et les fausses alternatives. Donc, on essaye de remettre en question quand même les notions, enfin de mettre en avant ce qu'on appelle le greenwashing, hein, donc les fausses idées. Et qu'en effet, il faut se méfier d'un bio-produit de l'autre côté de la planète va avoir un impact sur la planète peut-être beaucoup plus important qu'un non-bio-produit en bas de votre rue. Là, on parle environnemental. Bien sûr, les gens veulent beaucoup consommer bio aussi, peut-être en priorité pour les questions de santé. Mais voilà, ça c'est après à chacun à bien définir. Donc je ne veux pas arriver avec un discours de c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça. Par contre, c'est vrai que ce que les amis de la Terre mettent plus en avant, c'est le local, ça c'est clair. Parce qu'il y a à l'heure actuelle quand même un impact beaucoup moindre que si je consomme localement que ce qui vient de l'autre côté. L'aspect production, donc si on parle purement d'un produit alimentaire supermarché, plutôt ben justement des producteurs bio ou liés à l'agroécologie ou liés à des pratiques peut-être moins néfastes pour la planète que les pratiques agro-industrielles classiques. Ça c'est sûr. Après, encore une fois, il y a toute cette question, oui, mais le bio c'est plus cher, etc. Et ce sont des choix de vie. Et je pense qu'il y a moyen de... que ce ne soit pas forcément plus cher, mais ça peut demander peut-être un investissement, à l'heure actuelle, un investissement en termes de temps, de réseautage, etc., que tout le monde n'est pas prêt à faire. Et là, c'est le combat au quotidien de beaucoup, enfin, la plupart des organisations, c'est de proposer des alternatives, de montrer qu'un autre monde est possible et qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après, nous, les Amis de la Terre en Belgique, ici, on n'est pas spécialisé dans du plaidoyer, on agit plutôt à l'échelle du citoyen. Maintenant, ça fait partie d'un réseau, les Friends of the Earth Europa, donc les Amis de la Terre Europe, et il y en a d'autres, mais qui sont basés à Bruxelles, eux ont plutôt une action de plaidoyer, et donc là, qui ont plutôt orienté vers les institutions européennes et les décideurs. Et là, on essaye justement d'agir au niveau des décideurs et au niveau plutôt macro, quoi. Après, il y en a d'autres, hein. Je cite les Amis de la Terre, bien entendu, vu qu'on est là, mais sans dire qu'on est les seuls à le faire. Hein.
Histoire que les consommateurs n'aient plus le choix qu'entre des solutions acceptables.
Voilà, je crois que ce serait l'idéal. C'est malheureux, en effet, que je doive prendre 10 minutes pour choisir quelle pomme je vais manger, quoi. Et de devoir regarder à chaque fois l'étiquette, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a été produit, et voilà.
Et pour aller plus loin, donc, pour les personnes non averties ou qui sont peut-être avec... moins de précision quant à ce choix qu'elles peuvent faire pour que ça convienne à leurs valeurs. Est-ce qu'elles ont un moyen, au-delà de venir ici au festival vous rencontrer, d'être sensibilisées, de retrouver l'information? Est-ce que si elles ne font pas démarche pour le climat, elles peuvent retrouver autrement? Comment est-ce que cette bonne parole, je mets des guillemets à mon propos, se transmet de ménagère en ménagère?
Évidemment, il y a tous les outils internet, etc. On a un site web, etc., qui propose l'information. Après, l'accès à l'information, il y a aussi tout le problème pour avoir accès à un autre public du vocabulaire. Mm-hmm. On utilise souvent un vocabulaire parfois un peu trop compliqué. Donc évidemment, il va y avoir tout un travail de pédagogie. Après, on fait des actions sur tout le territoire. On ne fait pas uniquement des actions Esperanza, mais c'est sûr qu'il y a tout un travail de pédagogie avec des actions et un travail de vocabulaire à continuer que les Amis de la Terre font, mais c'est sûr que c'est toujours compliqué d'accéder à tous ces types de publics, et spécialement dans les campagnes aussi. C'est un travail en effet qu'on est en train de mener et qui doit se continuer pour justement que tous les publics soient au courant des situations, des alternatives, et des alternatives aussi dans leur territoire. Parce qu'évidemment, sur Bruxelles, par exemple sur les grandes villes, on sait quelles sont les alternatives possibles. Mais dès qu'on habite dans les plus petits villages, c'est très compliqué de voir les alternatives, et on ne va pas prendre sa voiture pendant une demi-heure pour trouver une alternative. C'est juste, ça n'a pas de sens.
Ça devient irrationnel à un moment donné aussi.
Donc c'est aussi compliqué aussi de trouver à chaque fois la réalité du terrain. Mais c'est sûr qu'on a des locales un peu partout en Wallonie, et donc c'est aussi, on essaie un peu que chaque local en Wallonie et à Bruxelles trouve des solutions pour les gens de leur localité.
Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont dans les quartiers, vont dans les associations de quartier ou les maisons de quartier, ou comment ça se passe pour toucher justement tout ce public qui a peut-être moins accès à l'information, comme tu le disais?
Ben ça, c'est justement, c'est pas encore tout à fait le cas, ça dépend des groupes. Donc, en fonction des locales, nous on mène beaucoup d'actions sur le terrain, il y a des locales qui mènent d'autres types d'actions, donc ça dépend vraiment des volontaires en fait, ça dépend de la motivation des volontaires et des désirs des volontaires. Oui, on essaie de faire des partenariats avec d'autres associations pour justement les maisons de quartier, etc. C'est aussi des endroits où on essaie d'aller, on essaie de débats, etc. Donc ça c'est une volonté de toucher ce public plus large. Et justement pour les rencontrer et pour faire passer nos messages. Donc oui, c'est les maisons de quartier, ce serait aussi intéressant d'y aller. Après, toujours, il y a le problème aussi des horaires. Donc si on travaille aussi. Mm-hmm. Et donc c'est aussi compliqué assis en fonction des horaires. Mais après, il y a aussi des permanents aux émulateurs qui, eux, ont du temps en journée pour pouvoir faire ce travail.
Donc c'est un travail qui est en cours.
Oui, bien sûr.
En friche.
Après, si je peux ajouter, bien sûr, les émulateurs défendent des thématiques qui sont reprises aussi par d'autres, plein d'autres associations. Et c'est vrai qu'il y a un choix qui a été fait de travailler plutôt avec des adultes chez les émulateurs. Maintenant, on est très fort en lien et c'est marrant qu'on soit juste à côté d'eux dans le stand ici à Esperanza, parce que nos bureaux sont dans le même bâtiment à Namur, au Mundoen, de Empreinte, qui eux sont plutôt spécialisés sur un public scolaire, enfant, et qui vont adapter des messages similaires. Et après, il y en a des centaines d'autres, désolé à ceux que je ne cite pas, et qu'ils soient. Et même étatique, hein, je veux dire, il y a aussi, il faut pas oublier ça aussi, il faut oublier qu'il y a des alternatives au niveau de Bruxelles Environnement, si je prends le cas de Bruxelles, qui propose, qui essaye, et qui soit via d'autres acteurs, par l'intermédiaire d'autres acteurs, soit directement eux. Donc, il y a quand même tout un discours, enfin tout qui arrive de différents côtés, quoi. Je veux dire, donc des alternatives qui sont proposées de différentes sources.
Une dernière question à Kiki. Il en reste deux.
Ah oui, mais j'ai encore des invités qui vont piocher.
Il y a encore des. On leur redonnera. Allez, vas-y, Guillaume, reprends-en une.
Mais j'ai une question à Kiki dans ma tête.
Alors, pas de choix, pas de tirage.
Pas sur un papier. Moi, en préparant l'émission, j'ai été un peu posé des questions comme ça, mais à brut pour point, et pour savoir un petit peu ce que les gens pensaient quand on parlait d'éco-responsables en matière d'alimentation, etc. Déjà, tout de suite là, certains d'entre eux s'arrêtaient. Éco-responsable alimentation, c'est tout un concept. Et comme vous le disiez tous les deux, effectivement, assez justement, déjà, rien que le titre était bloquant. Et donc ne permet pas de toucher tout le monde. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais on l'avait soulevé donc d'une autre manière, c'est je prends du blanc bleu belge, ça vient de Belgique, c'est bien, non?
En effet.
Alors je fais parce que évidemment j'ai souri parce que la personne avec toute sa sincérité répondait oui, en fait moi j'achète des choses qui sont labellisées Belgique. C'est un petit pays, donc effectivement, pour moi, c'est du local. J'ai l'impression de savoir d'où ça vient. Mmh. Et puis, en discutant de façon informelle, on se rend compte toutes les deux que probablement, on ne sait pas forcément d'où vient ce concombre de Belgique. Est-ce qu'il vient plutôt de Wallonie? Est-ce qu'il vient plutôt de Flandre? Est-ce que c'est du local? Et est-ce que c'est bien? Et en fait, après ça est venue la réalité où elle me dit, mais moi, toute ma famille est agricultrice. Et tu sais, je sais bien qu'il faut bien mettre tout ce qui sort de la vache quelque part et qu'on n'a plus assez et que ça touche à notre pratique. Elle me résume en une phrase d'autres réalités qui sont d'ordre écologique, qu'elle connaît bien. Et elle lève les épaules en disant, il faut bien manger. Et donc ça, c'est des mots qu'on capte au quotidien et que je suppose vous devez entendre régulièrement. Mm-hmm. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on peut faire nous, à notre niveau, pour essayer d'aider et de peut-être transmettre un regard différent sur l'alimentation, on est tous ici, on est à peu près une petite dizaine quand même, mine de rien, techniciens compris. Comment est-ce qu'on peut faire, nous, qui ne sommes pas amis de la Terre, je parle de l'association, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être mettre notre goutte dans l'océan et aider? Et répondre à ce genre de propos, sans paraître paternaliste et déterministe.
C'est toujours le problème, en effet.
C'était ma question dans ma tête. Non, elle ne se résumait pas sur un papier, pardon, Camille.
Effectivement.
C'est une bonne question.
Je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, elle est là.
Si, c'est une bonne question. Ça, c'est clair qu'on se pose très souvent, mais qui est très complexe. Voilà. Comment faire maintenant, je pense que d'abord, il faut un minimum se renseigner sur les thématiques qu'on veut aborder. Je crois qu'il ne faut pas... C'est pour ça que nous, on a une démarche comme on ne veut pas prétendre, et c'est justement pas le cas, comme on travaille que des bénévoles, etc., qui ne sont pas du tout spécialistes de tout. Or, on aborde pas mal de thématiques très différentes, que ce soit l'alimentation, l'énergie, le transport, etc. Et du coup, c'est pour ça que je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais qu'on garde cette notion de toujours se remettre en question et remettre en question nos habitudes. Mais pas forcément de dire, ok, c'est pas bien, on le sait bien, mais tiens, est-ce que ce que je fais, quel est l'impact réel, d'où est-ce que ça vient? Et donc, c'est intéressant justement, le blanc-bleu-belge, ben, si certaines personnes vont avoir une idée là-dessus, d'autres une autre idée. Et ce qui est intéressant, c'est justement ce débat et cette discussion et cet échange qui est enrichissant pour tout le monde, je pense. Et sans vouloir forcément dire c'est moi qui ai raison, parce qu'en effet, les réalités sont différentes. Et pour certains, ça va être un aspect, je veux dire, un angle plutôt environnemental qui va primer, d'autres plutôt sanitaires, d'autres plutôt socio-économiques, et ainsi de suite. Donc, moi, la réponse que je donnerais, c'est créer du débat, encore une fois. Ne pas, certainement pas être paternaliste et dire attention, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Maintenant, tu peux remettre en question et dire, ah tiens, moi j'ai déjà entendu que blablabla, et voilà, et puis la personne... Après, certaines personnes se bloquent, hein, et n'ont pas envie de s'ouvrir à un débat, parce que voilà, c'est des habitudes, et critiquer ses propres manières de vivre, ses habitudes, c'est pas facile, hein, c'est clair. Donc voilà.
C'est peut-être un privilège de savoir s'autocritiquer.
Mais c'est le but de l'éducation permanente, hein, donc on est vraiment... Enfin voilà, on sent un subside du gouvernement pour ça, et c'est vraiment de faire changer le regard sur la société et développer l'esprit critique. Après, enfin voilà, on retire une petite couche d'un oignon et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et après, on en rajoute, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce que voilà, on a. Et je sais plus, c'était quoi la question sur les privilèges que tu viens de demander?
Que c'était peut-être un privilège de pouvoir s'autocritiquer, d'avoir les moyens nécessaires en soi que pour pouvoir reculer et s'auto-questionner.
Oui, c'est peut-être un privilège, ouais. C'est compliqué.
Moi, mon expérience
de vie... Le week-end n'est pas fini, le village des possibles est toujours ouvert, et chacun son privilège.
Je pense que la remise en question, c'est peut-être un privilège, mais en tout cas qui n'est pas lié à un des privilèges, je pense, soutenus par le festival, si je peux me permettre. Pour l'avoir vécu et en discutant avec des personnes, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ayant vécu pas mal d'années à l'étranger, au Burundi, en Sierra Leone... En l'occurrence, pour ne pas dire l'Afrique, parce que je n'aime pas citer, dire que j'ai vécu en Afrique, ça n'existe pas. Voilà. Je pense que tout le monde est capable de se remettre en question et d'avoir un esprit critique. Je pense que c'est très présomptueux de penser qu'il n'y a que certaines personnes qui sont capables de se remettre en question. Voilà. Après, certaines personnes ont plus l'habitude, le font de manière plus spontanée. Peut-être, ou en tout cas peut-être plus vis-à-vis, tiens, quel va être mon impact sur l'environnement, par exemple, si je prends la thématique qui nous concerne. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se remettent très vite en question, quel va être l'impact sur mon portefeuille, par exemple. Donc, c'est un mécanisme de pensée qui existe.
Histoire de priorité, comme tu disais tout à l'heure.
Qui existe déjà, voilà. Ouais.
On a chaud, non ?
On va faire une petite pause. Une petite pause musicale. Est-ce qu'on écouterait... par exemple, il y a Feu Chatterton qui joue ce soir. On pourrait écouter Feu Chatterton maintenant. On écoute L'Oiseau.
Radio Esperanza.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse. Je t'ai parlé vague, échoue sans cesse. Là-bas, à présent, l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout. Le sable s'élève, puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé.
feuilles tercent sous l'oiserie de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiserie de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain ce volatile au regard éteint? Moi je crois revenu apeuré et nu du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours espérant trouver des plumes. Un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau de ses rêves et doux rayons comme des aigus et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau de ses rêves et doux rayons comme des aigus et une poupée vaudou. Je te mets à bruit des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur le palais de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux de l'astre enfantin qui appuie sur le palais de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.